en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur Canal Académie, la première radio académique francophone au monde. Le vendredi 25 novembre 2005, c'est l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui faisait sa rentrée solennelle sous la coupole de l'Institut de France. Cette séance était présidée par Monsieur Emmanuel Poule, qui l'introduisit dans ces termes.
Sans qu'il en ait été ainsi à l'origine, c'est néanmoins une très longue tradition qui prévoit que chaque année, le dernier vendredi de novembre, l'Académie des inscriptions et belles-lettres tienne une séance solennelle sous la coupole. Les traditions sont respectables, mais elles ne sont pas figées. Elles évoluent au fil des ans. Sans remettre en cause ni le dernier vendredi de novembre, ni la coupole, nous introduisons cette année une nouveauté. Elle est seulement technique et nous l'introduisons prudemment. Des écrans ont été installés qui, remédiant aux difficultés que crée la configuration des lieux, devraient vous permettre de mieux suivre la séance. Les hasards du calendrier font que cette année, nous fêtons le deuxième centenaire de l'affectation, en application d'une décision de Napoléon, du Collège des Quatre Nations à l'Institut de France et à ses quatre classes, devenues ensuite les quatre puis les cinq académies. Le joyau du collège fondé par Mazarin étant la chapelle, transformé en amphithéâtre pour répondre à sa nouvelle destination, c'est à la suite de cette affectation que les académies s'identifient dans l'imaginaire collectif avec la coupole. Et c'est à la décision de Napoléon que nous devons aujourd'hui d'y être abrités. Cette séance sous la coupole est dite de rentrée. C'est là une désignation impropre, puisque nous n'avons pas attendu cette rentrée publique pour nous remettre au travail après la trêve estivale. Voilà en effet déjà 2 mois que nous avons repris nos séances du vendredi. Mais la solennité de cette rentrée n'en reste pas moins un événement majeur de la vie de notre compagnie, d'autant mieux souligné d'ailleurs que le lieu prestigieux où elle se déroule, que, aux inscriptions et belles-lettres, nous n'abusons pas de la coupole. Si donc ce décor sert de cadre exceptionnel, une fois par an, à l'une de nos séances hebdomadaires, c'est pour mieux correspondre, mesdames et messieurs, à l'honneur que constitue votre présence ici et répondre à l'amitié que vous nous faites en venant entendre les communications qui ont été préparées à notre intention. Il me revient d'abord, avant de vous présenter un bref bilan de l'activité de l'Académie pendant l'année écoulée, de faire mémoire des membres de la compagnie qui nous ont quittés. Une Académie partage en effet avec les familles les mêmes lois de la vie, selon lesquelles la pérennité n'est assurée que par le départ des uns et l'arrivée des autres. Notre Académie a été rudement éprouvée par la disparition brutale de Serge Lancel, qui nous était apparu encore en bonne santé à la fin du printemps dernier et qu'un mal inexorable a emporté au bout de 4 mois, le 9 octobre dernier. C'était, si l'on peut dire, un Africain qui avait exploré tout le passé si riche de civilisation des provinces romaines d'Afrique du Nord. Le passé punique, d'abord, qu'il avait fait revivre en dirigeant les fouilles archéologiques à Carthage et dont il a offert à un large public les belles synthèses que représentent son Carthage et son Hannibal, traduit l'un et l'autre en plusieurs langues. Le passé romain, ensuite, qui l'a conduit inévitablement au passé paléo-chrétien, fouillé à Tipasa, puis vandale de l'Afrique du Nord, tant les persécutions du IVe siècle, les controverses entre donatistes et catholiques, et surtout la personnalité de l'évêque d'Hippone, se sont imposées à l'historien. Et le Saint-Augustin de Serge Lancel portera longtemps témoignage du passé chrétien de cette Afrique du Nord qui n'aimait tant. Nous déplorons par ailleurs cette année le décès de plusieurs membres correspondants, français ou étrangers, et notamment des 2 doyens d'élection de nos correspondants étrangers. De Janos Armata, nous avons appris le décès qu'après quelques retards, puisqu'il est survenu l'année dernière à Budapest, le 24 juillet 2004. C'était un spécialiste de l'histoire et de la civilisation des peuples nomades de l'Eurasie et des épigraphies parthes et sassanides. Puis le 16 mai, nous avons perdu le chanoine Astrik Gabriel. Né à Pécs, en Hongrie, au temps de l'Empire austro-hongrois, il était presque à quelques semaines près le doyen d'âge de nos correspondants étrangers, il avait émigré aux États-Unis. Il s'est consacré, entre autres, à l'histoire des collèges universitaires parisiens du Moyen Âge. Un troisième correspondant étranger, Georges Redar, est décédé à Kirchendar, près de Berne, le 24 janvier 2005. C'était un spécialiste de philologie indo-européenne qui s'était consacré notamment à l'étude des dialectes iraniens et afghans. Le 15 décembre 2004, c'est le professeur Lucien Musset qui s'éteignait à Caen, où il avait accompli une longue carrière universitaire. Il était historien de la Normandie, entendu dans son acception la plus large, de la Scandinavie à la Sicile. Le 14 mars 2005, un autre universitaire français, notre correspondant Pierre Bonassi, est décédé à Toulouse, où il avait fait toute sa carrière d'enseignant. Il était historien de l'Europe méridionale au Moyen-Âge médian. Quand l'année 2004 s'est terminée, notre compagnie comptait plusieurs places de membres ordinaires qui étaient alors vacantes. Elles ont été pourvues au long du premier semestre 2005. Le 18 mars, nous avons élu Michel Bure au fauteuil de Philippe Wolff, remplaçant ainsi un spécialiste du pays d'Oc médiéval par un spécialiste du pays d'Oil. Historien de la Champagne des 10e-13e siècles, Michel Bure est également un archéologue de terrain, notamment en matière de castellologie, et un éditeur de sources, tant littéraires que documentaires. Avec Christian Robin, élu le 18 mars au fauteuil qu'avait rendu vacant le décès du doyen Schneider, l'Académie s'est adjoint un arabisant, spécialiste du monde pré-islamique, en particulier du Yémen. Se fondant sur les inscriptions sud-arabiques, il a pu reconstituer l'histoire des royaumes de la péninsule arabique aux siècles qui ont précédé l'islam. Enfin, après qu'elle ait complété ses rangs avec un médiéviste et un orientaliste, il revenait à l'Académie le 22 avril de pourvoir à la troisième des grandes aires culturelles qui relèvent de son ressort en installant au fauteuil de Maurice Zena l'antiquisant Jean-Louis Ferrari. Notre nouveau confrère est un latiniste qui est tout à la fois historien, philologue et épigraphiste. Ses recherches portent sur les relations entre les mondes grecs et romains et sur les institutions et l'histoire politique de Rome. Jean-Louis Ferrari a l'importante responsabilité de la direction de la partie latine de ce qu'on appelle familièrement la collection Budé. Même si elle ne tient séance qu'une fois par semaine, l'Académie en tant que corps travaille beaucoup, et le travail qu'elle accomplit n'est pas aussi mystérieux qu'il est réputé l'être. En fait, chacun des trois volets de son activité comporte une partie publique qui devrait contribuer à lever ces mystères si tant est qu'il y en ait. Les séances hebdomadaires sont la mieux connue de nos activités. Même si elles n'ont pas lieu sous la coupole comme d'aucuns le croient. Non seulement elles sont ouvertes au public, qui est parfois nombreux, mais les textes des communications sont publiés dans les comptes rendus des séances, familièrement et même affectueusement on parle d'écrahi, et donc facilement consultables. Ces volumes d'écrahi atteignent maintenant un nombre respectable de pages, et malgré l'alourdissement de la tâche qui en résulte pour le secrétariat de l'Académie, le délai d'attente entre la lecture en séance et la publication dans l'écrahi a été progressivement réduit. Il a été ramené à environ un an et demi, c'est-à-dire au minimum nécessaire et au reste incompressible à la mise au point matériel des textes qui nous sont soumis. Il y a peu de périodiques qui peuvent se flatter d'une telle ponctualité. Nous avons en un an tenu 33 séances et entendu 58 communications. Une part non négligeable d'entre elles sont le fait de savants extérieurs à l'Académie, des universitaires, des archéologues ou des chercheurs qui viennent, qui ont conti nous entretenir des résultats d'une fouille en cours, nous informer de la direction originale que prennent leurs recherches ou encore faire en quelque sorte acter sous l'autorité de notre compagnie quelques découvertes qui leur tiennent à cœur. Ces séances hebdomadaires mettent en somme l'Académie au centre d'un réseau d'informations historiques et archéologiques de première main dans les disciplines que nous cultivons. Un deuxième volet des activités de l'Académie est constitué par la recherche scientifique qu'elle poursuit elle-même en tant que corps au travers de ses publications. L'activité éditoriale de notre compagnie est véritablement impressionnante. C'est en effet une vingtaine de collections ou de périodiques qui émargent au budget de l'Académie. Ces collections, certes, ne figurent pas toutes dans les bilans annuels d'activité de l'Académie, tant s'en faut. Puisque le rythme de leur publication ne dépend pas d'une politique commerciale qui serait totalement inadaptée aux travaux d'érudition que nous produisons, mais des opportunités scientifiques qui les font vivre. Elles n'en progressent pas moins à tour de rôle, ce qui se traduit chaque année par un nombre variable de titres. Ces titres couvrent tout l'éventail des compétences de l'Académie, qui sont, comme on le sait, très vastes chronologiquement, qui vont de la préhistoire à l'aube du XVIIe siècle, et culturellement, qui vont de l'extrême-orient à l'extrême-occident. Certains titres ont une ancienneté fort respectable. Le Journal des savants, le Recueil des historiens de la France, ou l'Histoire littéraire de la France, par exemple, sont la continuation d'entreprises nées sous l'Ancien Régime. Le Journal des savants remonte à 1665. Il a connu au long de sa longue histoire plusieurs avatars et transformations, y compris une interruption pendant la Révolution, jusqu'à ce qu'il ait rejoint en 1909 le giron de notre Académie. Sa ponctualité, sa solidité scientifique de son contenu, sa typographie impeccable et son illustration en noir et maintenant en couleur donnent à ses 500 pages annuelles une séduction de jeune homme. Le recueil des historiens des Gaules et de la France était une entreprise d'hémoristes, reprise et continuée par la troisième classe de l'Institut, devenue notre Académie. Mais ces énormes volumes in-folio ont été abandonnés en 1904 et ils ont été poursuivis par plusieurs séries thématiques in quarto, qui, sous le même titre ancien qui leur est commun, mais où la référence à la Gaule a disparu, publie en collections parallèles des obituaires, des pouillés, des documents financiers. Ces collections avancent lentement, car elles réclament des collaborateurs d'une haute compétence scientifique. C'est dans la série des obituaires qu'est paru cette année un premier et gros volume consacré à un nouveau type documentaire, Les Rouleaux des Morts, le premier d'une série annoncée de 4 volumes. Le volume publié cette année, qui porte sur les rouleaux antérieurs à 1180, enrichit considérablement le corpus et propose pour la première fois l'édition de tous ces textes. Quant à l'histoire littéraire de la France, autre création moriste, elle a renoncé, il n'y a guère, au plan strictement chronologique adopté par ses fondateurs, de façon à profiter des occasions que naît la rencontre, si je puis dire, d'un auteur relevant de son programme et d'un érudit spécialiste de cet auteur. On évite ainsi de trop longs délais d'attente pour que soit rassemblée une copie suffisante pour faire un volume, de sorte qu'il a été possible de publier cette année, 3 ans seulement après le précédent fascicule, un autre demi-volume qui augure favorablement de l'avenir de la nouvelle formule et qui va sortir de presse dans les jours qui viennent. Avec les mémoires de l'Académie, notre compagnie a repris une autre série remontant à l'Ancien Régime, puisqu'elle avait été initiée par l'ancienne Académie royale. Mais cette série a été, elle aussi, considérablement rajeunie, donnant naissance à 2 publications parallèles. Les mémoires proprement dites, dont la série actuelle remonte à 1975, paraissent certes sans périodicité, mais ils n'ont pas moins une parution régulière, puisque 3 nouveaux volumes sont sortis cette année. Le recueil des inscriptions concernant les cultes isiaques, qui compte 3 tomes, des pages d'histoire militaire médiévale réunies par l'un de nos confrères, enfin la commanderie des Paillis, établissement bourguignon de l'ordre de l'hôpital, dont il reste encore de beaux restes archéologiques. L'autre publication issue des mémoires de l'ancienne et de la nouvelle Académie, ce sont les comptes rendus des séances qui vont bientôt fêter leur 150e anniversaire. J'en ai déjà souligné la ponctualité assez exceptionnelle dans le paysage des publications périodiques savantes. En 200 ans d'histoire, l'Académie ne s'est pas contentée de poursuivre des travaux commencés avant elle. Elle a créé plusieurs publications, périodiques ou non, pour des travaux scientifiques spécifiques. Les monuments Piau sont nés à la fin du XIXe siècle de la générosité d'un amateur d'art dont l'Académie a pérennisé le nom en le faisant figurer dans le titre de la revue que son legs a permis de publier. D'une périodicité incertaine à ses débuts, la revue est maintenant annuelle et le tome 84 vient de sortir. La carte archéologique de la Gaule connaît ces dernières années un développement exemplaire. Née dans les années 30, elle avait été conçue au départ comme la part française d'un programme lancé par l'Union académique internationale, qui devait produire une carte générale de l'État romain à partir de feuilles réalisées par fascicules et commentant ces cartes. Mais ce projet s'est peu à peu enlisé. Il a donc été repris en 1988 par l'Académie entièrement sur nouveaux frais, les volumes étant maintenant illustrés et très largement illustrés. Confiée à la direction dynamique de Michel Provost, la carte archéologique de la Gaule couvre déjà les 4/5 du territoire national, avec 3 ou 4 volumes pour chaque département. Et ce ne sont pas moins de 11 volumes, soit quelques 5000 pages, qui sont sortis en 2005, concernant aussi bien l'Est que l'Ouest du pays ou le si riche Midi méditerranéen. Le corpus Vasorum Anticorum est un vaste programme international que l'Académie a proposé à l'Union Académique Internationale en tant que premier chantier, c'était en 1920, au lendemain de la guerre, de coopération interacadémique, et dans lequel elle assume la part du corpus conservé en France. Le 40e fascicule français est sorti cette année, qui recense les vases se trouvant à Lille, et un volume hors série et sous presse qui contiendra les actes du colloque sur les clients de la céramique grecque. Enfin, la dernière année des séries publiées par l'Académie accueille les actes des colloques qui se tiennent chaque année depuis 1990 dans le cadre merveilleux de la Villa Kérylos. Sont donc parus cette année les actes du colloque de 2004 sur la Grèce antique sous le regard du Moyen-Âge occidental, qui a donné lieu à un beau volume de plus de 200 pages. Et le colloque 2005 a eu pour thème « L'homme face aux calamités naturelles dans l'Antiquité et au Moyen-Âge », avec une participation de plusieurs de nos confrères de l'Académie des sciences. Cette activité éditoriale est considérable, puisque, évaluée au poids du papier, ce sont 12 à 15 000 pages qui portent ainsi chaque année l'estampille de l'Académie. Tout cela implique un travail énorme, celui de mes confrères d'abord, qui reçoivent la copie des collections dont ils sont responsables, traitent avec les auteurs, mettent au point leurs manuscrits. Celui aussi du secrétariat de l'Académie, qui, sous la direction du secrétaire perpétuel, gère cette production, en corrige les épreuves, en assure la diffusion, tout cela avec une compétence et même un professionnalisme qui font bon ménage avec sa disponibilité permanente et son inépuisable complaisance. Je ne peux clore cet exposé quelque peu austère des publications de l'Académie pendant l'année écoulée, sans le compléter par un compte-rendu de la façon dont notre compagnie s'est acquittée des tâches qui lui sont confiées dans le cadre de l'Institut de France. Vous savez bien sûr qu'elle a, pendant la vingtaine d'années qui ont suivi la suppression de la Révolution, par la Révolution de l'ancienne Académie royale, fonctionné comme une des classes de l'Institut avant d'en devenir une des académies. Or, c'est pendant cette vingtaine d'années que se sont produits les deux événements importants dont on a fêté coup sur coup les deux bicentenaires. La création elle-même de l'Institut en 1795 et l'affectation à l'Institut en 1805 des locaux où nous sommes encore, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. Lors du bicentenaire du premier de ces événements en 1995, les cinq académies ont confié à notre secrétaire perpétuel Jean Leclan la réalisation d'un index biographique et bibliographique de tous les membres et correspondants de l'Institut, pour qu'il constitue la suite de celui qu'avait publié le comte de Franqueville lors du premier centenaire de l'Institut. Tâche énorme, puisqu'elle constitue une prosopographie d'environ 4000 notices que Jean Leclan, avec l'aide d'Hervé Danesi, a réalisé en trois volumes, totalisant 2500 pages, dont le troisième pour les correspondants français et étrangers vient de paraître, juste à temps pour relier les deux bicentenaires. D'autre part, les 200 ans de la présence des académies à l'ancien collège des Quatre Nations ont donné lieu à un très beau volume, le Palais de l'Institut, où notre académie se trouve également impliquée grâce au travail d'un autre de nos confrères, Jean-Pierre Bablon, qui retrace la longue transformation en palais académique du collège voulu par Mazarin et réalisé par Colbert et par Levaux. La responsabilité de l'Académie à l'égard de la recherche scientifique ne se borne pas à la voir éclore lors de nos séances ou à contribuer à son développement grâce à nos publications. Il lui appartient aussi de juger ce qui se fait dans le champ des spécialités que nous cultivons. C'est là le troisième volet des activités de l'Académie. Il se traduit d'abord par le contrôle scientifique, qui est statutairement confié à l'Académie sur les grands établissements français de recherche à l'étranger, que sont les écoles françaises de Rome, d'Athènes, de Jérusalem et d'Extrême-Orient, dont elle suit de près l'activité scientifique des pensionnaires. Et de façon plus générale, l'Académie est tenue constamment au courant de ce qui se publie, en France comme à l'étranger, dans le domaine de ses compétences. Nous entendons donc chaque semaine, sous le nom générique d'hommage, des recensions critiques de livres récemment parus, appartenant à l'un ou l'autre de ces domaines de compétences. Nous en avons entendu 141 dans l'année qui vient de s'écouler. Les meilleurs de ces livres sont ensuite récompensés, après examen par une commission ad hoc, il en existe une quarantaine, par l'attribution de l'un des prix qui ont été fondés par divers donateurs et confiés à cette fin à notre compagnie.
Après ce discours de Monsieur Emmanuel Poul, président de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, la lecture du palmarès 2005 a été lue par Monsieur Jouanna, vice-président de l'Académie. L'Académie a en effet décerné des prix et proclamé de nouveaux archivistes paléographes. À l'issue de ce discours et de cette proclamation, M. Jean Leclan, secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, a prononcé une allocution d'accueil.
Monsieur le chancelier de l'Institut de France, mesdames et messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdemoiselles de la Légion d'honneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, comme chaque année, notre séance de rentrée solennelle se déroule désormais selon le même rituel, ouverte par le discours de notre président, qui relate les faits majeurs de l'année écoulée, rendant hommage aux confrères disparus, saluant l'arrivée parmi nous de nouveaux membres et correspondants. La séance se poursuit par l'énumération que présente le vice-président des prix décernés par l'Académie et la proclamation des nouveaux archivistes paléographes, car l'École des Chartes est liée à notre Académie depuis sa fondation en 1821, et la lecture de cette liste est fixée par une prescription ministérielle de 1833. Il revient ensuite au secrétaire perpétuel de présenter les lectures qui seront faites par des confrères sur des thèmes que le bureau a jugé pouvoir être considéré comme d'actualité. L'actualité de notre activité des inscriptions et belles-lettres, on l'a rappelé tout à l'heure, est définie au sein de l'Institut de France, est définie par ses textes de fondation qui, je le rappelle, remontent à cette fondation à 1663. Ceux-ci ont été depuis l'objet de nombreux remaniements, comme pour tout organisme vivant, il faut tenir compte aussi d'une longue tradition qui est loin d'exclure toute innovation. En fonction de sa vocation propre, notre compagnie se consacre essentiellement à des études de haute érudition relatives aux monuments et aux textes de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de la tradition classique qui, ces années dernières, a été étendue jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, ainsi qu'au très vaste domaine de l'orientalisme conçu dans le sens le plus large, tant dans l'espace que dans le temps, depuis les débuts, l'aube de l'histoire pour le Moyen et le Proche-Orient, et d'autre part, dans l'espace, puisque nous allons depuis l'Italie jusqu'au fin fond de l'Asie, et aussi en Amérique. Ceci ne saurait laisser, bien entendu, de côté des considérations d'actualité qui ne peuvent que se refléter dans l'organisation de notre séance de rentrée solennelle. Ainsi, cette année, pouvions-nous prendre en considération l'installation de l'Institut de France dans ce magnifique palais où nous siégeons aujourd'hui. Sacré empereur à Notre-Dame le 2 décembre 1804, Napoléon faisait proclamer le 20 mars 1805, c'est-à-dire le 29 Ventôse en 13, le décret suivant. L'Institut national sera transféré de l'emplacement qu'il occupe au Louvre dans l'édifice des Quatre Nations, aujourd'hui Palais des Beaux-Arts. Il était précisé d'ailleurs sur la minute du décret, à la main, qu'il l'occupera jusqu'à ce que le nouveau local qui lui est destiné au Louvre soit arrangé. Bien, cette affectation définitive dans ce palais ne fut proclamée par décret impérial que le 1er mars 1815, c'est-à-dire durant les 100 jours. Est-il nécessaire de préciser que le bâtiment, ici, avait été construit à partir de 1661 à la suite du testament de Mazarin, qui affecta des sommes très considérables pour la construction d'un édifice à double vocation. D'une part, une chapelle, où nous siégeons, ici même, destinée à la sépulture du cardinal, son salut éternel, et d'autre part un collège pour l'éducation de 60 jeunes hommes provenant de 4 provinces, les 4 nations, de son collège des 4 nations, qu'il avait réuni à la France par la paix de Westphalie et le traité des Pyrénées, l'Artois, le Roussillon, l'Alsace et des territoires dans les Alpes italiennes. Basilicam et gymnasium edificavit. Pouvez-vous lire, c'est facile, au fronton même de la façade de la coupole, une chapelle par conséquent et un collège. Le bicentenaire de cette installation de l'Institut de France au Gai de Conti a d'ailleurs été célébrée avec éclat ce mardi 25 octobre lors de la séance de rentrée des 5 académies dont les discours ont été consacrés au courage en hommage au chancelier Pierre Messmer. Dans ces conditions, il convenait que nous ayons recours à une de nos sources de référence que nous consultons d'ordinaire lorsque nous arrêtons notre programme. C'est la liste des manifestations diverses proposées dans la brochure très soigneuse et nourrie de faits qui est présentée chaque année par le Haut Comité des Célébrations Nationales que j'ai depuis quelques années l'honneur de présider. Pour 2005, un nom s'y détachait, celui de Jules Verne, à la mémoire duquel nombre de manifestations ont d'ailleurs été organisées, en particulier un important colloque tenu à Cérisy. L'enfance des membres de notre compagnie, comme sans doute celle de beaucoup d'entre vous présents ici cet après-midi, a été nourrie des rêves suscités par les voyages extraordinaires auxquels a convié ce visionnaire de génie. Ce romancier prophète si prolixe, plus de 60 romans, 18 nouvelles, des pièces nombreuses de théâtre que fut Jules Verne, nous invitant à explorer sous sa conduite tant de contrées parmi les plus lointaines, voire les plus étranges, même parfois hostiles d'ailleurs. Or, d'une façon qui peut sembler paradoxale, bien paradoxale, Jules Verne ne nous a offert, en fait, aucun motif de le célébrer ici ce soir. Alors qu'à son époque, se sont produites tant de découvertes archéologiques des plus retentissantes, que tant de textes nouveaux et de documents ont révélé des civilisations demeurées si mal connues, il ne s'est tourné, pour ne prendre ici que quelques exemples éclatants, ni vers les splendeurs de l'Égypte, sur les chemins de Champollion, puis de Mariette, ses contemporains, Mariette, ni vraiment vers les cultures de l'Extrême-Orient. Car Jules Verne, c'est essentiellement un homme du futur, mais du merveilleux. C'est vers l'avenir, vers le mystérieux que se projettent ses pensées et ses réflexions, vers les progrès des techniques que porte tout son génie. Cependant, le silence de Jules Verne, sur les domaines qui sont l'objet de nos propres curiosités, n'en demeure pas moins, pour nous, une énigme sur laquelle ne se sont pas expliqués, nous semble-t-il, les exégètes nombreux, ces temps derniers, qui ont exploré l'œuvre par ailleurs si riche de cet auteur éminemment curieux. À peine peut-on noter, vous allez voir que c'est peu, dans l'archipel en feu, 1883, il signale qu'à Vitilo, construit en amphithéâtre sur d'abrupts roches que défend l'ancienne acropole de Kélafa, au-dessus de laquelle se dressent quelques vieilles tours en ruine, d'une origine postérieure à ces curieux débris d'un temple de Sérapis, c'est pas très clair, dont les colonnes et les chapiteaux d'ordre ionique rendent encore l'église de Vitilo. C'est tout ce que j'ai trouvé. Dans Kéraban le Têtu, j'ai été obstiné, Kéraban le Têtu la même année, évoquant la presqu'île de Kertsch, Jules Verne signale d'innombrables courganes couvrant la campagne et lui donnant l'aspect peu récréatif d'un immense cimetière. C'était autant de tombeaux que les antiquaires avaient fouillés jusque dans leur profondeur et dont les richesses, vases étrusques, pierres de cénotaphes, bijoux anciens, ornent maintenant les murs du temple et les salles du musée de Kertsch. C'est peu, nous avons d'ailleurs parmi nous ce soir la spécialiste par excellence des courganes. Ça, ce sont des buttes, des sépultures. Dans sa première œuvre, en 1863, « Cinq semaines en ballon », le docteur Ferguson et ses deux compagnons ont surveillé l'Afrique de Zanzibar jusqu'au Grand Lac, puis au Tchad, au Niger, jusqu'à Gouina, au bord du Sénégal. Mais le vent, c'est étrange, ne les a pas poussés du lac Victoria, qu'ils ont survolé, ce lac Victoria où le Nil prend sa source. Le Nil s'écoule vers le nord, au long du grand fleuve, il aurait pu le suivre, jusqu'à l'Égypte des prestigieux pharaons. Jules Verne a bien fait une croisière sur les côtes d'Afrique du Nord, mais il n'a pas dépassé la Tunisie ni Malte. Tout au plus, peut-on relever qu'Hector Servadac, en 1877, explorateur des astéroïdes, des petites planètes du système solaire, a pour maître un professeur de physique du lycée Charlemagne, particulièrement grincheux d'ailleurs, dénommé Palmyrin Rosette. Je livre cet indice, Palmyrin Rosette, au psychanalyste, pour voir en quoi ces noms sont plus que des coïncidences. Venons-en aux étapes de Phileas Fogg dans le Tour du Monde en 80 jours, de 1872. Entre Suez et Bombay, pas d'étape. Dans la traversée de l'Inde, Phileas Fogg s'arrête à Allahabad, mais il ne prend guère que le temps que d'arracher à la moge une jeune hindoue, Aouda, vouée au bûcher funéraire de son époux. Embarqué à Calcutta, il ne fera que très courtes escales à Singapour, Hong Kong, Yokohama, avant de traverser le Pacifique pour gagner l'Amérique. En Asie, Michel Strogoff, en 1876, poussera jusqu'au cœur de la Sibérie, et Claudius Bombarnac, en 92, de la Géorgie, gagnera Pékin. Mais dans ses ouvrages, rien de concret à noter par nous. Si nous nous tournons, à titre prometteur, vers les tribulations d'un Chinois en Chine, nous ne trouverons que peu de descriptions du Céleste Empire, le roman étant centré en fait sur un événement historique, la révolte des Taiping entre 1851 et 1875. Finissons avec l'Inde, où dans la maison à vapeur, en 1879, un éléphant mécanique gigantesque, de 30 pieds de longueur et 20 pieds de hauteur, la trompe dressée, parti de Calcutta, explose avant d'atteindre Bombay, la machine surchauffée ayant explosé. Certes, le Gange fait rêver Jules Verne. Était-il un fleuve dont le nom évoque de plus poétiques légendes et ne semble-t-il pas que toute l'Inde se résume en lui ? Était-il endroit au globe, écrit Jules Verne, où plus de merveilles aient été entassées depuis l'apparition des races asiatiques ? C'est certes que Bénarès est par excellence la ville sacrée, qu'Aurangabad conserve de magnifiques restes de son ancienne splendeur, mais en fait, cette documentation repose sur l'Inde des Rajas de Rousselet en 1874, que Jules Verne d'ailleurs cite. Dans Rebure le Conquérant, nous survolons, dans une machine dynamo électrique, l'incomparable vallée du Cachemire et la superbe cité de Srinagar, aux portes de bois tendues comme des fils. Ne nous laissons pas abuser par d'autres titres, les Indes noires, qui en fait s'intéressent à une famille de mineurs écossais. Tandis que dans les 500 millions de la Bégum, au titre si évocateur, on doit se borner à des réflexions sur la concentration industrielle dans une ville d'acier de l'Oregon, aux États-Unis. À notre grand regret, nous avons dû abandonner l'exploration de l'œuvre de Jules Verne et nous sommes alors tournés vers la personne et l'œuvre d'Abraham Hyacinthe Anquetil-du-Perron, dont il convient assurément de marquer le bicentenaire de la disparition. Car la figure de ce savant austère, mais éminent, qui a révélé à l'Occident les Upanishads et est ainsi le fondateur des études iraniennes et indiennes, qui sont parmi les domaines les plus riches de l'orientalisme, sera évoqué par nous, par notre confrère Pierre-Sylvain Filiosa, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Chaque année, Filiosa retourne très fidèlement pour de longues missions de recherche dans l'Inde du Sud, en particulier Pondichéry, où l'Institut français d'Indologie a été fondé en 1955, il y a donc 50 ans, par son père, Jean Filiosa, notre regretté confrère, décédé en 1782. Abraham Hyacinthe Anquetil-du-Perron nous offre l'exemple d'une très longue vie, entièrement consacrée à la science. Passionné dès son jeune âge par le rêve de l'Orient, vous le verrez, je ne vais pas vous raconter ses aventures, puisqu'elles vont nous être contées. Simplement, ayant rapporté en 1761 180 manuscrits déposés à Bibliothèque du Roi et ayant donné l'interprétation, le commentaire, dès 1763, il fut nommé associé de l'Académie d'inscriptions et belles-lettres. Il n'avait pas encore 32 ans. En 1771, paraissaient les trois volumes du Zen d'Avesta, puis en 1804, les deux volumes des Upanishads. Très isolé, irascible, ombrageux certes, il n'en est pas moins un modèle de ténacité scientifique. Par le discours prononcé à ses obsèques en 1805, Sylvestre de Sacy, le grand orientaliste, lui a ouvert les chemins de la célébrité. À partir des documents que Antille Duperron a rapportés, ses études érudites sont sorties des travaux de Burnouf et d'Armesteter, et c'est à ce pionnier que nous a, pour nous, à parler de nouveaux Zarathoustra. Nos confrères et les collègues qui pratiquent nos domaines d'érudition ont interrogé pour nous textes et monuments, ne serait-ce que pour attirer notre attention sur des fléaux toujours possibles et nous rappeler, après tout, que le risque n'est qu'une donnée de base de notre destin humain. Au début d'octobre dernier, la session des colloques, ça a été évoqué tout à l'heure, qui se tiennent chaque année dans ce joyau qu'est la Villa Queridos de Théodore Reynac, sur la Côte d'Azur, à Beaulieu, près de Nice, a été consacrée, sous la conduite de nos confrères Jacques Joanna et Michel Zinc, à l'homme face aux calamités naturelles dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Nombreuses et neuves ont été alors les informations présentées et les considérations que peuvent susciter ces désastres, tempêtes et raz-de-marée, famines, épidémies. Nous avions aussi demandé à notre confrère Serge Lancel, l'éminent professeur émérite à l'Université de Grenoble, auteur de tant de travaux savants sur l'histoire de la Méditerranée romaine et la pensée des anciens, de composer pour la présente réunion de rentrée solennelle un tableau d'ensemble sur les hommes de l'Antiquité classique face au séisme. Un mal cruel, soudainement révélé, nous a arraché brutalement Serge Lancel le 9 octobre, et je voudrais ici de tout cœur avec vous tous lui dédier l'affirmation de notre admiration pour son œuvre exceptionnelle, preuve aussi de notre affection profonde, et présenter à son épouse le témoignage de notre très fidèle sympathie. Dès le début de l'été,
la parole est à Monsieur Pierre-Sylvain Filiosa, membre de l'Académie, pour son discours intitulé « Antille Duperron, un pionnier des études iraniennes et indiennes ».
En 1754, j'eus occasion de voir à Paris quatre feuillets Zend calqués sur un manuscrit du Vendidat Sadeh qui est à Oxford. Sur le champ, je résolus d'enrichir ma patrie de ce singulier ouvrage. C'est en ces termes qu'Antille Duperron rapporte sa décision de partir pour l'Inde. Il avait à peine 23 ans. Né à Paris en 1731, il avait fait des études classiques, puis, remarqué par Monseigneur de Caylus, était entré à son séminaire d'Auxerre et avait complété ses études dans les refuges jansénistes de Hollande. Il devait garder de cette éducation janséniste un grand esprit de rigueur et la sévérité du régime de vie. Il avait de plus été initié à l'arabe et au persan. Revenu à Paris en 1752, il explore les fonds orientaux de la bibliothèque du roi, déjà fort importants à cette date. On les devait à la politique de l'abbé Bignon. Sous son égide, des missionnaires avaient fait parvenir un grand nombre de livres et manuscrits orientaux, dont un magnifique lot de manuscrits sanscrits. Le jésuite Jean-François Ponce avait fait une grammaire sanscrite avec un lexique sanscrit latin, joints à l'envoi des manuscrits. Il y avait donc à Paris, à cette date, les instruments de base pour apprendre le sanskrit et la possibilité de découvrir de grands textes classiques de l'Inde. Le jeune Antille Duperron pouvait commencer sur place une carrière d'érudit. Sans doute l'appel intérieur du voyage a commandé l'impulsion qu'il a engagée sur la route de l'Inde autant que la vue d'un feuillet manuscrit. Il pouvait obtenir une mission. Il avait des protecteurs puissants qui avaient approuvé son projet. L'abbé Barthélemy, Jean-Pierre de Bougainville, le frère du navigateur à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, le comte de Caylus, Étienne de Silhouette, le commissaire du roi auprès de la Compagnie des Indes. Mais une grande volonté d'indépendance, l'impatience qui est son moindre défaut, lui font décider de ne devoir qu'à lui-même son entreprise. À l'insu de tous, même de sa famille, il s'enrôle comme simple soldat dans une compagnie en partance pour l'Inde. Il quitte Paris avec une troupe de nouvelles recrues, en fait la lie de la société française, le 7 novembre 1754. En arrivant au port de Lorient, il apprend qu'il est remis de son engagement, gratifié d'un passage sur un vaisseau de la Compagnie des Indes et doté d'une modeste pension. Ses protecteurs avaient agi en apprenant sa folie. Il arrive à Pondichéry le 10 août 1755. Il surprend la petite colonie française d'administrateurs, de militaires, de négociants, par la mission que seul il s'est donnée à lui-même et surtout par son caractère obstinément individualiste. Il s'échappe vite de cette société, gagne Chandernagore, trouve là une société toute semblable, qui de plus est sur le pied de guerre. Français et Anglais se disputaient âprement l'emprise du Bengale. Il s'échappe de nouveau, la veille de la prise du comptoir français par les Anglais. Seul, il regagne Pondichéry en suivant la côte orientale de la péninsule indienne, traversant de nombreux États, presque toujours démunis de passeports, forçant des douanes et des postes de garde, pistolets au poing. De Pondichéry, il passe par mer à Mahé, s'attarde à parcourir le Kerala pour enquêter sur des communautés chrétiennes et juives de cette région, puis explore par terre la côte occidentale de l'Inde. Il traverse de nouveau de multiples États, franchit de multiples frontières, généralement sans passeport, et parfois soupçonné d'espionnage, arrêté, relâché, n'ayant jamais que des appuis incertains, victime enfin de fièvre et d'une gamme de maladies dont on ne peut faire le compte. Il atteint Surat le 1er mai 1758. Il y avait là une communauté de Parsis, iraniens émigrés de Perse après la conquête islamique et qui pratiquaient encore en Inde la religion de Zoroastre. Il rencontre enfin, après 3 années d'errance et d'aventure, des Destours, ces docteurs Parsis versés dans les textes sacrés de la vieille religion iranienne. Parmi eux, le vénérable Destour d'Arabe se prête à ses demandes de manuscrits et lui enseigne l'Avestique et le Pelvi, langues anciennes sacrées de l'Iran. Il se réalise alors une rencontre intellectuelle de la plus haute qualité entre un jeune Français et le Destour d'Arabe. Le maître Parsi reconnaît l'intelligence de son disciple et celui-ci a acquis ou copié les manuscrits qu'il était venu chercher et a recueilli l'explication de leur contenu. Il est fier d'annoncer qu'il a achevé une traduction du Vendidad le 16 juin 1759. Il écrit aussitôt au chancelier de Lamoignon, le priant d'appuyer auprès du roi un ouvrage unique en son genre, la traduction du manuscrit de Zoroastre. Il écrit même au roi, le suppliant de favoriser son travail et de donner dans l'Inde des ordres pour la recherche des Védas. De plus, il a beaucoup enquêté sur la pratique de la religion Parsi. Il a, chose très rare pour un Européen à cette époque, pu visiter avec son maître un temple du feu le 20 juin 1760. Il a ainsi rempli la première partie de la mission qu'il s'était donnée. La deuxième partie était la quête des Védas. Ce second grand projet a échoué. Ayant un malheureux penchant à s'occuper de tout et de ce qui le regardait le moins, il reproche un jour à un commerçant français des procédures malhonnêtes. Cela aboutit à un duel où il laisse son adversaire mort sur la place de Surat. Poursuivi par l'administration française, il se réfugie dans la loge anglaise. Survient la prise de Pondichéry par les Anglais. Dès ce moment, son avenir apparaît difficile en Inde. Il décide de retourner en Europe, embarque sur un vaisseau anglais avec une caisse contenant ses papiers et 180 manuscrits. Débarqué en Angleterre, il a des difficultés pour dédouaner sa caisse de manuscrits et aussi pour la détourner de la convoitise d'un orientaliste anglais. Malgré tout, il arrive à Paris le 14 mars 1762 et le lendemain, 15 mars, dépose à la bibliothèque du roi les ouvrages de Zoroastre et les autres manuscrits qu'il avait destinés pour ce précieux trésor. De son voyage, il écrira plus tard « J'avais passé 8 ans hors de ma patrie et près de 6 dans l'Inde. Je revenais en 1762 plus pauvre que lorsque j'étais parti de Paris en 1754. Mais j'étais riche en monuments rares et anciens, en connaissance que ma jeunesse, j'avais à peine 30 ans, me donnait le temps de rédiger à loisir, et c'était toute la fortune que j'avais été chercher aux Indes. » Il vivra le reste de sa longue vie sur cette fortune. Dès son retour, la bibliothèque du roi l'engage comme interprète pour les manuscrits orientaux. Il rend compte de sa mission à l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans 2 séances successives. Il y entre comme membre associé en 1763, devient pensionnaire en 1785. Il y fait de nombreuses communications et multiplie les publications dans les Mémoires et le Journal des Savants. Son premier ouvrage d'importance est, en 1771, le Zen d'Avesta en 3 volumes. Le premier volume est consacré en entier, quelques 400 pages, au récit de son voyage. On attendait un livre d'érudition. C'est un récit d'aventure passionnant et qui va passionner l'Europe. Le récit du voyage est suivi de la traduction du Zen d'Avesta. Ce n'est pas encore une œuvre de pure philologie. C'est exactement la transmission à l'Europe de l'enseignement des Destours tel qu'Anquetil du Perron l'a recueilli avec son acuité d'attention et sa lucidité. Avec ses observations et descriptions soignées des pratiques et coutumes, c'est maintenant un document très précieux sur l'état de la religion parsie en Inde au XVIIIe siècle. Cette œuvre doit être prise comme un rapport de voyage scientifique. Elle fonde l'esprit et la méthode du voyage. Anquetil du Perron se détache de son siècle par son désintéressement absolu. Sa recherche d'un niveau de connaissance sur le pays visité plus avancé, plus profond. Avec les langues anciennes, pour cela, il apprend des langues vivantes, le persan, qui était la langue des milieux du pouvoir en Inde et des cercles cultivés, l'hindoustani, par lequel il pouvait approcher le peuple. Il s'intéresse principalement à la religion, parce que c'est dans cette sphère que les peuples placent le plus profond de leur culture. Il se fait une philosophie personnelle, inspirée de Montaigne, substituant une idée d'amour universel de l'homme à tout attachement ethnocentrique. Le vrai voyageur, nous dit-il, c'est-à-dire celui qui aimant tous les hommes comme ses frères, inaccessible aux plaisirs et aux besoins, au-dessus de la grandeur et de la bassesse, de l'estime et du mépris, de la louange et du blâme, de la richesse et de la pauvreté, parcourt le monde sans attache qui le fixe à aucun lieu. Après le Zen d'Avesta, Anquetil du Perron n'eut de cesse de réaliser pour les Védas ce qu'il avait fait pour le livre sacré des Perses. Il le fit à Paris, ou du moins fit ce qu'il put faire à Paris. En 1775, il reçut un manuscrit persan envoyé de l'Inde par le colonel Gentil. Un officier français au service d'un nabab indien, homme très cultivé, avec qui il s'était lié durant son voyage 15 ans auparavant. Ce manuscrit contenait une version persane de 50 Upanishads. Ces textes sanscrits dans lesquels les brahmanes de l'antiquité védique ont posé les fondements de la philosophie indienne. Elle était due à Darashuko, l'infortuné prince moghol, fils aîné de Shahjahan, assassiné par son cadet Aurangzeb en 1659, prince d'une très grande culture, d'une grande intelligence confinant à la mystique. Prince qui avait rêvé d'une harmonie entre l'islam et l'hindouisme. Il voyait confluer ces deux grandes religions dans un monothéisme absolu. En 1657, il avait réuni les meilleurs lettrés de Bénarès dans son palais de Delhi aux noms persans et sanscrits, Manzil i Nigambod, palais de la compréhension des textes sacrés. Et, recueillant leurs commentaires, avait composé une traduction persane de leur enseignement sanscrit fondée sur les Upanishads. Ce n'est pas une traduction de la lettre des textes antiques, c'est une amplification de la pensée. Les brahmanes consultés lui avaient présenté l'interprétation moniste que Shankara a initiée vers le 8e siècle de notre ère. Ce fut pour Anquetil du Perron une nouvelle rencontre intellectuelle de la plus haute qualité et peut-être encore plus intense que sa première rencontre avec un destour indien. Il entreprit tout de suite une traduction française qu'il réalisa entre octobre 1786 et juillet 1787. Elle est restée pour la plus grande partie inédite par la propre volonté de son auteur. Anquetil du Perron avait un souci extrême de littéralité. Le latin lui permettait de garder l'ordre des mots du texte persan. Il refit donc sa traduction en latin. Il y ajouta des commentaires d'une érudition sans limite et des digressions sur les sujets les plus divers, ce qui en fait un livre aussi difficile que passionnant. Il y inséra beaucoup de matières personnelles, toute sa pensée, toutes ses réactions, des souvenirs de l'Inde et des témoignages de son existence au fil de son labeur. Ce fut un labeur que l'on peut qualifier d'héroïque quand on considère les circonstances dans lesquelles il le réalisa. La révolution était survenue. En septembre 1792, il refusa de prêter le serment civique exigé de tous les corps de l'État et fut démis de ses fonctions à la Bibliothèque nationale. En avril 1793, il passa 24 heures dans les prisons de la Terreur. Il en sortit, mais en décidant de se retirer du commerce des hommes, ne se voyant plus de raison d'exister autre que sa quête de connaissances. « Je prêterai, nous dit-il, une main secourable à ma patrie chancelante, si je lutte pour ma part contre l'ignorance, véritable artisan des maux de la France, par l'étude de la littérature orientale et grecque. » Les académies sont abolies quelques mois plus tard. Retiré du monde, sans ressources, vendant ses meubles et même une partie de ses livres pour survivre, il déclare être un renonçant, un brahmane des bords de la Seine. Ces années laborieuses et dramatiques aboutissent à la publication, en 1801 et 1802, de la traduction latine du grand ouvrage de Darashuko avec le titre, je cite, « Upnekat », c'est-à-dire « secret à garder », ouvrage très rare en Inde même, contenant la doctrine antique et secrète, ou théologique et philosophique, extraite des quatre livres sacrés des Indiens, traduit littéralement de la langue persane mélangée de mots sanscrits, en latin, illustré par des dissertations et annotations expliquant les choses plus difficiles, par l'étude et le soin d'Anquetil du Perron, voyageur en Inde, ci-devant pensionnaire et directeur de l'Académie royale des inscriptions et belles-lettres. Remarquons qu'il se donne encore à cette date le titre Indico Plustes, voyageur en Inde. Cette œuvre de ces dernières années a été l'aboutissement de son voyage. Il a passé, épuisé sa longue vie, à lutter pour défendre les idées qu'il avait conçues dans son voyage de jeunesse. Et il a dû toujours lutter, car il reste solitaire dans son siècle. Son époque est celle de la conquête de l'Inde, de la montée du colonialisme avec sa cohorte de préjugés. L'abondante littérature de voyage de son temps est presque unanime dans son jugement d'infériorité de la culture de l'Inde et se donne l'illusion d'apporter la civilisation au pays conquis par la force. Antile Duperron a lu tout cela et récuse tout en termes mordants. Il publie ses idées dans une législation orientale en 1778, qu'il dédie au peuple de l'Hindoustan. Paisibles Indiens, antiques possesseurs d'un pays fertile, fallait-il que le bruit de vos richesses pénétrât dans un climat où les besoins factices n'ont point de bornes? Bientôt de nouveaux étrangers abordent à vos côtes, hôtes incommodes, tout ce qu'ils touchent leur appartient. La voix de l'équité ne peut se faire entendre. Au moins, malheureux Indiens, peut-être apprendrez-vous qu'en 200 ans, un Européen qui vous a vu, qui a vécu avec vous, a osé réclamer en votre faveur et présenter au tribunal de l'univers vos droits blessés, ceux de l'humanité flétrie par un vil intérêt. Champion de la liberté, Antile Duperron accueillit favorablement les premiers jours de la Révolution. Mais il s'emporta, avec son ardeur obstinée, contre la terreur. Homme d'ordre, il était prêt d'accepter le gouvernement de Bonaparte. Mais il reconnut vite un despote dans celui qui avait ramené l'ordre intérieur à son bénéfice. Réintégré à l'Académie le 3 janvier 1803, il revint aux séances jusqu'au jour où il démissionna, refusant de prêter le serment de fidélité que Napoléon, en accédant à l'Empire, imposa de nouveau à tous les corps de l'État. Dans sa lettre de démission, adressée à Chaptal le 28 mai 1804, il donne sa raison. « L'âme que le ciel m'a donnée est trop grande et trop libre pour que je m'abaisse et me lie en jurant fidélité à mon semblable. Le serment de fidélité dans mes principes n'est dû qu'à Dieu, par la créature au Créateur. D'homme à homme, il a, à mes yeux, un caractère de servilité auquel ma philosophie indienne ne peut s'accommoder. » Cette lettre est son testament. Il s'éteignit quelques mois plus tard, le 19 janvier 1805. Cette personnalité qui aimait l'homme, mais se heurtait à presque tous les hommes, cette œuvre hors du commun, n'ont pas été reçues aisément par ses contemporains. Le caractère impulsif, dur, obstiné du personnage, les écrits séducteurs, Antile Duperron est un grand écrivain, mais chargé d'informations techniques et de digressions perpétuelles, la critique mordante, tout en lui présentait un abord difficile. La République des Lettres l'a pourtant reçu favorablement. Toute l'Europe cultivée l'a reconnu comme savant et l'a consulté, sachant trouver chez lui ou dans ses ouvrages une information de première main et un jugement de qualité scientifique. Ensuite, la postérité l'a traité avec beaucoup moins de justice. Le modèle du voyage scientifique a vite été oublié. Sa voix, clamant la défense de l'Inde contre l'exploitation et les préjugés coloniaux, s'est élevée dans le vide. Sa lucidité lui avait fait prévoir son destin de grand homme oublié, avec une exception cependant. Il a longuement plaidé pour la création d'institutions vouées à l'enseignement et à la connaissance de l'Orient. Il a salué, non sans quelque envie, la fondation de la Société asiatique de Calcutta en Inde en 1784. Il a surtout rapporté un rêve, destinée à épargner à ses émules les difficultés qu'il avait rencontrées durant son voyage. Le rêve d'une académie ambulante qui pourvoirait aux besoins matériels et intellectuels des académiciens dans le temps de leur voyage, puis soutiendrait, lors de retours périodiques, la rédaction et la présentation de leurs nouvelles connaissances. Mais il ajoute une conclusion pessimiste. « Vaine espérance, projet chimérique, mon académie n'existera jamais. » Et les hommes, accoutumés à leurs erreurs ou effrayés du travail que demanderaient de pareilles recherches, se nourriront de systèmes, de portraits de fantaisie et continueront de tout étudier, de tout connaître, excepté l'homme. Sur ce point, sa voix a été entendue, notamment à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, car c'est dans le cercle de notre Académie que s'est formée premièrement l'idée de l'École des langues orientales créée en 1795, puis celle de la Société asiatique de Paris fondée en 1822, enfin celle de l'Académie ambulante qu'est l'École française d'Extrême-Orient, établie en 1900. Il est juste que 200 ans après sa mort, l'on rende encore un hommage à celui qui, même par ses chimères, a rendu de si grands services à l'orientalisme.
C'était la séance de rentrée solennelle sous la coupole de l'Institut de France, la rentrée solennelle de l'Académie des inscriptions et belles-lettres qui s'est tenue le vendredi 25 novembre 2005.